Bonjour Naïma.
Bonjour.
Alors je peux te demander quel est ton nom et quel est ton statut artistique pour le moment, ton origine et où tu habites.
Je m'appelle Naïma Bensougou, je suis artiste peintre. J'essaye de lancer ma carrière comme une artiste peintre professionnelle mais à temps plein. J'habite à Bruxelles et je suis femme d'origine maghrébine.
Parfait. Et tu es née en Belgique ou
Non, alors, je ne suis pas née en Belgique. Je suis arrivée en Belgique à l'âge de 23 ans. J'ai été mariée, j'ai trois enfants, un garçon de 23 ans et deux petites filles de 13-14 ans. J'ai travaillé, je suis venue ici en Belgique en tant que styliste. J'avais mon diplôme en tant que styliste et dessinatrice de mode. J'adore la peinture, j'ai toujours créé des petits meubles, des tableaux. J'ai toujours dessiné des visages, des paysages, de l'abstrait depuis jeune âge. On va dire j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Mais quand je suis arrivée en Belgique, j'ai fait des autres formations en tant que designer de bijoux. Et là où j'ai appris vraiment les petits détails de dessin, on va dire. Mais ça m'a donné envie plutôt de partir sur des gros formats parce que les bijoux, c'est petit. Et avec un petit dessin, moi, je ne suis pas satisfaite. Je suis très gourmande, je dois avoir
beaucoup de place
pour crier, pour me laisser l'espace de rêver. J'ai besoin d'avoir un grand espace et cet espace, je l'ai trouvé dans la peinture.
D'accord. Et je peux te demander à partir de quand tu t'es considérée comme une artiste? C'est quoi être une artiste?
Je suis née artiste.
Tu es née artiste?
Ah oui.
Sensibilité.
On a cette sensibilité, on est créatif. Et on essaye toujours d'être différent des autres.
Et donc, quand
on cherche pas.
Quand tu étais petite alors, quand tu as constaté que tu étais créative
À l'école, quand le prof il explique, et moi je dessine, au lieu de prendre note.
Toujours.
Je prenais mes notes en dessin. C'est par exemple, on parle de la géographie. Moi j'étais là à dessiner, à faire des dessins qui vont me faire. Et mettre sur les dessins des petits mots. C'est comme ça que je faisais mes devoirs.
Et qu'est-ce qu'ils disaient les professeurs? Que c'était des beaux dessins?
Non, du tout.
Ah non,
non, non, du tout.
Donc,
au contraire, j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai été jeune, parce que j'ai été toujours punie, j'ai été toujours engueulée. Pourquoi? Parce que j'ai été différente.
D'accord. Et ça, c'était où exactement?
Au Maroc.
Au Maroc.
Ouais. J'ai fait mes études au Maroc.
Les secondaires?
Oui.
Et artistique aussi
Non, l'artistique, je n'avais pas le droit. Parce qu'en fait, la seule école d'art qui existe dans le sud du Maroc, elle était à Marrakech, et moi j'habite à 300 km. J'habitais à Agadir.
D'accord.
Je me suis inscrite...
Au sud.
Oui, au sud. Je me suis inscrite à l'école, et je devrais y aller passer mon examen. Mon père a refusé à l'époque, mes parents, la famille, parce qu'on n'a pas des filles qui peuvent y aller habiter toutes seules.
D'accord, donc il y avait une discrimination, on peut dire, que subissaient les filles à l'époque.
Est-ce qu'on va appeler ça de la discrimination? Je crois. À l'époque, je dirais non. Parce que c'était plus un amour pour protéger son enfant.
D'accord.
Et mon papa m'a toujours sorti une phrase, parce que je lui disais pourquoi tu ne me fais pas confiance. Il me dit non, je te fais confiance, mais je ne fais pas confiance aux autres.
D'accord.
Et on ne pourrait pas, à l'époque, je ne pourrais pas définir ça comme discrimination.
Tout à fait.
Ouais.
Et ça se passait comment avec tes amis, etc.? Parce que toi, tu étais dans l'art et les gens qui étaient à l'école avec toi, ils te considéraient aussi comme différente alors?
Non, à l'époque, j'avais le droit d'être dans... Moi, j'étais toujours dans un milieu associatif. Mmh. Et j'étais dans la première association qui défendait la culture berbère à l'époque, qui s'appelle Tamaynout, qui existe toujours.
À quel âge?
À 18 ans. J'étais une des premières filles
à Agadir.
Et j'étais une des premières filles qui défend la culture berbère, qui a participé au premier congrès mondial Amazigh à Tenerife.
Magnifique.
Et c'est là où j'avais exposé mes premières toiles, qui parlaient de la culture berbère, des alphabets finards. Et j'ai eu un succès que j'oublierai jamais parce que j'ai vendu toutes mes toiles. Et de là, j'ai apprécié le fait de cette libération et cette liberté d'expression qu'on a en Europe. C'est là où j'ai eu le déclic, je vais aller vivre en Europe.
D'accord, bien. Et alors sur le plan familial, est-ce qu'il y avait dans ta famille des personnes qui étaient orientées vers l'art, vers la création ou...
Non.
Pas du tout.
Non, j'étais
Donc
la
c'était la
première.
première un ovni dans la famille.
J'étais la première qui avait des goûts artistiques. J'ai été la première fille dans la famille qui a quitté
Le nid.
le nid familial et qui est partie en Europe. Et j'ai été la première fille, oui, et même je crois la seule.
D'accord. Et quand tu étais au Maroc, tu faisais des recherches sur l'art contemporain, l'art moderne, l'histoire de l'art,
Oui,
ou
oui,
et
oui.
donc tu te tenais au courant, il y avait des choses, des courants d'art qui t'intéressaient particulièrement.
Mais j'avais même pas besoin de faire des recherches parce que notre culture, elle est tellement riche. On a l'art partout, dans nos tapis, dans nos dessins, dans nos bijoux, dans...
Bien
partout,
sûr.
partout, partout, hein. Où je pars, j'avais des toiles qui étaient magnifiques. La nature, j'habitais dans une ville où la mer est magnifique.
Je connais Agadir.
Ah oui, ouais. Eh
Et Essaouira
ben,
aussi.
ouais, voilà. On a
Il y a beaucoup de galeries à Essaouira, galeries d'art.
dernièrement,
Depuis, moi
dernièrement.
j'y étais la première fois dans les années 80, il y avait déjà pas mal de galeries d'art. Fin
Mais là
80.
maintenant, le centre de l'art moderne, c'est Marrakech.
Et Marrakech, bien
Ouais.
sûr.
Agadir, malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a vraiment pas. Il y a des artistes qui sont, mais incroyables, hein.
Marrakech qui organise la Biennale de l'art contemporain I54, tu connais,
Oui, j'ai entendu
qui a
parler,
eu
mais
lieu à
malheureusement,
La Mamounia il y a
oui,
quelque
mais
temps.
malheureusement, l'accès,
Très
elle est
VIP, très
très
difficile.
VIP, très
Ouais.
exclusif. C'est ça qui est pas, que je trouve pas vraiment juste.
C'est une entrepreneuse anglaise qui a lancé ça et qui a lieu, le salon d'art a lieu à New York, il a lieu à Marrakech, il a lieu encore dans d'autres villes, mais c'est très difficile d'accès, effectivement.
Oui, c'est un accès VIP. Là, dernièrement, il y a eu une foire à Agadir que moi j'ai contacté la responsable. J'ai envoyé pas mal d'SMS. Elle ne m'a même pas répondu.
Donc c'est plus facile pour toi, alors, mais tu vis en
Oui,
Belgique, d'exposer
c'est plus
ici que
facile pour moi
là-bas.
d'exposer ici que d'exposer dans mon pays, malheureusement.
Tu n'as jamais exposé là-bas.
J'ai exposé, c'était en 98, à la Chambre du commerce à Agadir, qui était vraiment très. Très belle exposition avec un des très grands artistes berbères à l'époque. Et c'est la seule expo que j'ai
D'accord,
fait.
donc c'est une envie d'en faire une autre, alors
Bien
finalement.
sûr, j'aimerais bien, mais le problème que avoir la possibilité d'exposer dans des endroits qui sont réservés, entre parenthèses, aux grands artistes,
Locaux.
mais non, pas du tout, étrangers.
Ah, unique, pas les
Ah
locaux,
non, non, les
même
locaux,
maintenant.
mais maintenant,
D'accord.
c'est l'art. L'art au Maroc, il est réservé à certaines catégories de personnes, malheureusement. On n'a pas cette ouverture d'esprit et cette ouverture vers tout talent comme la chance qu'on a ici,
C'est ça.
comme moi personnellement, j'ai ici en Belgique.
Et alors, l'art contemporain, on va dire européen ou américain, occidental, tu l'as découvert quand tu étais encore au Maroc ou bien tu l'as découvert
Non,
ici?
ici, ici.
Et qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu as aimé comme courant d'art?
C'est la libération, la libération qu'on trouve dans ces tableaux. Tu fais ce que tu veux, tu dessines ce que tu veux, tu t'exprimes comme tu veux. Il n'y a personne que tu juges. Tu as une signature, on la respecte. Tu n'es pas obligé de rentrer dans des
Des cases.
cases
Mais
ou
toi,
des
qu'est-ce qui t'a
quotidiens.
le plus attiré quand tu as découvert l'art moderne ou l'art
L'art
contemporain?
moderne, moi, j'ai découvert par les tableaux de Picasso. C'est la première expo que j'ai visitée quand je suis venue ici en Europe. Et j'étais mais choquée et émerveillée en même temps. Parce que pour moi, l'art, à l'époque, c'était un beau paysage, un beau visage.
Bien sûr.
Et quand j'ai vu,
Traditionnel.
voilà, l'art traditionnel, la nature, un folklore, ce que je vois chez moi au Maroc, hein. Et quand je suis venue ici, j'ai commencé à visiter les musées, voir vraiment des grands artistes dans quelle école ils sont partis et le chemin qui a fait leur succès. j'ai été émerveillée, en même temps choquée de cette technique, de cette libération, de le respect qu'on a pour cette signature. Et pour moi, c'est des écoles. Mmh. Et j'ai pris goût à reprendre la peinture en s'inspirant de ces personnes.
Oui, je comprends.
Il y en a tellement.
Et alors, au début, tu arrives en Europe. Comment tu peux nous décrire cette arrivée? Tu
arrives là.
Et tu cherches
Quel bonheur.
Une université, tu cherches...
Non, je suis arrivée ici en Europe. J'ai cherché en 89. Je suis arrivée...
Toute jeune, alors.
Toute jeune, oui.
4 ans, 5 ans.
Non, j'aimerais bien. Malheureusement, non. J'ai dépassé la vingtaine. Ah. Et je suis arrivée pour travailler, pour chercher une école d'art. Et j'ai tombé sur... je suis rentrée dans le domaine de mannequinat.
D'accord. À Bruxelles.
Non, à Paris.
À Paris.
À Paris. Voilà. Je suis venue, je me suis installée à Paris d'abord et après, j'ai déménagé à Bruxelles. J'ai travaillé autant qu'en mannequin. C'était déjà une porte qui m'a ouvert, qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit incroyable.
Tu as rencontré des artistes là-bas?
J'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré des photographes, j'ai rencontré des stylistes, j'ai rencontré des en fait, moi déjà quand je suis arrivée en Europe, je faisais 1m78 pour 45 kilos.
Oula.
J'ai été déjà différente. Et chez moi, on m'appelait Olive.
Zitoun.
Exactement, on m'appelait Olive, la femme de Popeye. Voilà. Tellement que j'étais grande et mince, et ça me faisait un complexe physique. Hein.
D'accord.
À l'école, au collège. Mais quand je suis arrivée en Europe, tout le monde me disait waouh, t'as une belle taille, tu es bien, pourquoi tu travailles pas dans la mode et tout. Ça m'a donné une confiance, mais énorme, incroyable. J'ai travaillé autant qu'en mannequin pendant quelques mois. Mais c'est un milieu qui ne me convient pas. Question de principe, question d'éducation, question de croyance. Ce n'était pas pour moi.
Donc, tu faisais des défilés?
Je faisais des défilés, j'ai été super bien pillée, mais je ne voulais pas faire une carrière. Je ne voulais pas faire une carrière comme mannequin.
Donc, tu cherchais quelque chose dans l'art, alors, déjà?
Je cherchais quelque chose qui va me permettre d'être moi-même. Mmh. Et le mannequinat... J'avais pas le droit d'être moi-même. Je devrais correspondre à une image...
Proforma.
Exactement. C'est ce qui ne me convient pas. Autant que femme et autant qu'artiste, ça ne me convient pas.
Donc tu arrives ici en Europe, tu cherches la liberté.
Exactement.
Et tu cherches l'individuation, donc être
Exactement.
Une femme unique.
Libre et unique.
Et
voilà. Je ne veux pas être tel ou tel, je veux être moi, Naïma. La jeune fille berbère qui arrive d'un pays étranger toute seule et qui a envie de se construire, de se faire un nom, de travailler sur elle-même et d'apprendre. Et tout ça, je l'ai trouvé ici en Belgique.
Et c'était difficile en France en 89, 90?
Très difficile.
De ne pas être discriminée, parce que tu dis culture berbère, etc. C'était mal vu, c'était plus compliqué. On exigeait plus de toi que d'autres?
Non, on n'exigeait pas parce que j'ai un physique qui m'a beaucoup aidée. Je ne ressemblais pas du tout. On m'a toujours pris pour une Européenne. Mmh. Quand je parlais, on me dit, mais tu es espagnole, on ne m'a jamais pris pour une Marocaine. Et je crois que c'est ça. Je ne me suis pas rendu compte. J'avais plus, on va dire, c'est un mot que j'ai découvert dernièrement, la discrimination. Je l'aurais plus vu qu'au Maroc avec le recul.
Oui, je comprends. On en parlera tout à l'heure.
Voilà, qu'ici, en Europe. Hein. Non, la discrimination ici en Europe, non, ça me...
Oui.
J'en ai pas...
Et alors, tu décides de quitter le mannequinat?
Oui.
Parce que tu avais une porte ouverte sur quelque chose d'autre?
Non, parce que je voulais rentrer dans les normes, malheureusement. Se marier, avoir une famille, faire un boulot.
Ton mari était français ou si c'est pas indiscret?
Français, oui, français. Et je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai eu une vie un peu banale. comme tout le monde, je travaille.
Tu travaillais comme...
Je travaille, j'ai été dans le commerce.
C'est ça, donc pas dans l'art.
Non, pas dans l'art. Dans l'art, en fait, j'ai repris mon activité artistique après la naissance de ma dernière fille. Quand il a eu, elle est née en 2010, en 2013, je me suis dit, non Naïma,
c'est le moment,
c'est bon. Les enfants, ils ont grandi, ta vie elle est déjà faite, ta vie familiale elle est faite, t'as assez donné. Là maintenant, il faut, c'est là où j'ai décidé de faire une formation comme designer de bijoux. J'en ai fait
ici
en Belgique, oui. J'ai fait 3 ans de design de bijoux. J'ai appris pas mal de techniques, pas mal de, on va dire.
La technique, donc c'était artisanat
et artistique,
c'est les deux.
Artistique, oui. Il faut avoir un savoir-faire et avoir une patience, mais incroyable, pour pouvoir créer un bijou déjà. Et pouvoir dessiner un bijou. Il faut être créatif aussi. Si on n'a pas cette créativité, on ne peut pas.
Et donc, c'était 3 ans à temps plein ?
Temps plein.
Après,
deux formations en même temps. Professionnelles. Et c'est à Bruxelles. Deux formations en même temps. Je faisais design de bijoux et bijouterie. Parce que je dessine un bijou, je dois savoir le réaliser.
Ah oui, la bijouterie, il y a un accès à la profession, on appelle ça.
Exactement, ouais. Bah, quand j'ai fini cette formation, j'ai dit non, c'est trop cadré pour moi aussi, je peux pas.
Décidément, tu es une femme qui veut être libre.
C'est trop cadré pour moi, je peux pas rentrer dans un gabarit, dans une boîte. Allez, on dessine, on crie, on vend. Non, c'est pas ce que je veux.
Il faut aller au nord du Canada où tu as les plus grands espaces vierges, libres.
Oh là là, c'est en Australie.
Ou en Australie.
Ouais. Voilà. C'est mon rêve. Mais bah, j'espère que je vais le réaliser un jour. Habiter dans une petite maison, mais dans un grand espace illimité, ça sera...
Je parlais du Canada que je connais, pourquoi pas l'Australie.
Ouais. Et là, j'ai décidé de faire des tableaux. Ma première expo...
C'est plus précis.
En 2000...
Pourquoi tout d'un coup?
Tout d'un coup, parce que comme je vous ai dit...
Pourquoi le bijou et puis les tableaux? Moi, ça m'intéresse.
Les bijoux...
Tu en as fait, tu en as
réalisé. Oui, j'en ai réalisé, j'en ai réalisé.
Et j'en fais. Professionnel, donc tu en as vendu.
Oui, je fais encore des dessins de bijoux. Si j'ai envie de me réaliser un bijou pour moi, je préfère le dessiner moi-même et le réaliser moi-même que d'y aller l'acheter.
Oui, je comprends.
Parce que j'aime bien les pièces uniques. Et de là, chaque fois que j'essaye de dessiner un bijou, je me retrouve avec un gros croquet. Et je me dis, mais non, ça ira pas comme bijou, impossible. J'aurais besoin de 3 kilos de matière pour réaliser ça. Et ben, je le réalise en peinture sur des grandes toiles.
Bonne idée.
Et je me suis retrouvée avec des tableaux.
Donc, tes tableaux sont des bijoux.
Pour moi, oui.
Et pour les autres, parfois aussi.
Possible.
On voit le lien, tu veux?
Non, on ne voit pas le lien. Mais... Mes tableaux sont partis. La dernière technique que j'ai utilisée, c'est dans la bijouterie, on utilise des fils d'or ou des fils d'argent pour réaliser ces créations. Et là, moi, j'ai des fils de peinture dans mes tableaux.
C'est original.
Ouais. Je trouve ça très beau, je trouve ça inspirant. Mm-hmm. Mais j'ai tellement de choix de couleurs que je n'ai pas dans la bijouterie. La bijouterie, je dois utiliser les pierres pour avoir un choix de couleurs. Mais dans la peinture, j'ai toujours mes fils, mais de différentes couleurs.
Et de différentes fins. Tu as jamais essayé de présenter un bijou et un tableau qui représente le bijou en même temps?
J'ai déjà essayé, mais... J'ai déjà essayé, mais le problème, c'est que c'est une question de taille. J'ai pas mal de croquis chez moi. J'ai essayé de faire plutôt de la sculpture bijou. Mais ça reste une question de taille parce que je vois les choses en grand, c'est ça le problème. Je ne peux pas faire une bague qui fait 1,20 m. Ça n'a aucun sens. À part si je dois faire une bague armoire.
Oui, je comprends. Mais des bijoux, il y a aussi des grands bijoux.
Oui, mais c'est... Il faut aimer. Et je trouve que les bijoux, ça demande énormément de temps, énormément de matière et de précision. Et c'est pas, je ne peux pas travailler des bijoux à mon goût.
C'est pour le marché.
Exactement. Il faut travailler quelque chose au goût de tout le monde.
Et le goût évolue, donc tu dois évoluer avec le marché.
Exactement. Et ça,
non,
je ne veux pas.
En peinture, non.
Non. En peinture, je suis moi-même. Je donne ce que je sens. Je m'exprime comme je veux. J'ai le choix des matières, j'ai le choix des couleurs. Dans la bijouterie, je n'ai pas ce choix. On a une catégorie de pierres qui sont connues mondialement. On a deux matières ou trois matières, ou même si on veut rajouter même maintenant, parce qu'il y a des bijoux en bois, mais on est limité, ce n'est pas comme la peinture. Je peux faire autant de mélanges que je veux et j'ai des palettes, mais incroyables. C'est ça que j'aime bien dans la peinture.
Donc tu es un peu comme Marc Rothko, peut-être tu connais le...
Oui, bien sûr.
Il a fait
bien
son
sûr.
Rouge, il a mis 40 ans pour trouver le rouge qu'il voulait faire.
Eh oui.
Et donc, il était
moi, je cherche toujours.
Tu cherches toujours.
Je n'ai pas encore trouvé la... Je suis en train de chercher une couleur, mais...
Et alors lui, par exemple, je voulais demander ton avis, Marc Rothko, qui est un de mes peintres, moi, favoris, il a fait, à un moment, une exposition dans ce qu'on appelle la chapelle de Rothko, à Houston, aux États-Unis. Et il voulait qu'il y ait une seule personne qui soit face au tableau pour s'imprégner du tableau. Il ne voulait pas qu'il y ait 100 personnes qui soient autour du tableau, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette attitude de vouloir une seule personne à la fois devant un tableau?
Mais c'est magnifique. Parce que là, on s'appropriait l'espace qui est autour du tableau aussi. Une peinture. Par exemple, moi, j'ai un tableau que j'ai envie de visualiser pour voir la finition finale. Si j'ai 100 personnes autour, je n'ai pas l'espace, je ne peux pas respirer librement. Quand je pars visiter une expo, je préfère toujours rester là jusqu'à la fin ou être là avant l'ouverture, si j'ai l'occasion, pourquoi pas.
Bien sûr.
À la Brafa, j'y étais dernièrement. La première fois que j'y étais, il y avait trop de monde. Ce n'était pas possible. C'était au vernissage. Ouais, et il y avait trop de monde, il y avait des très beaux tableaux, il y avait des objets magnifiques, mais on n'avait pas cet espace pour... Tu prends ton temps pour analyser, pour... Pour être connecté avec cette œuvre. Il n'y avait pas moyen. Je suis retournée la deuxième fois, je suis retournée de midi jusqu'à 19h.
Attendre que le...
Ouais. Et j'ai resté devant un tableau pendant 10-15 minutes toute seule. Et quand il y a quelqu'un qui m'interrompt, je reviens encore.
Oui.
C'est une connexion et ça m'a inspiré, mais incroyable. Non, c'est une super idée. Et si on pourrait faire ça, c'est magnifique.
Travailler, moi, ça me fascine des années de trouver la bonne couleur.
C'est extraordinaire. Pas tous les artistes, ils ont cette chance-là. Moi, j'ai travaillé sur ma technique pendant 3 ans.
Qui t'a soutenu? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont vraiment soutenu?
Non.
Des gens qui sont dans le milieu ou des
amis, enfants.
Des enfants.
Mes enfants m'ont beaucoup soutenu. Mes enfants m'ont beaucoup encouragé. Et ça compte beaucoup pour moi. Et au début, je n'avais pas d'atelier. Je travaillais dans mon salon, je travaillais dans ma cuisine. Et mes enfants ne sont jamais pleins de l'espace que j'occupe dans la maison. Ils ont toujours respecté...
Mais maintenant, tu as un atelier.
J'ai un atelier maintenant chez moi. J'ai un atelier où je travaille, où je suis libre, où je peux laisser ma peinture, mes toiles, sans déranger personne. Mais avant, mes filles, elles étaient bébés. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher.
Bien sûr.
Et je trouve ça incroyable. Ils ont grandi avec une mère artiste. Et ça me fait plaisir de leur donner goût et ils adorent l'art. Ils adorent l'art, ils adorent les belles choses, ils sont très créatifs et ça c'est très important pour moi.
Donc toi tu n'as pas cette belle,
moi j'ai pas eu cette chance, non.
Mais tu n'as pas un professeur ou un peintre que tu as connu, quelqu'un qui t'a vraiment influencé, qui t'a de manière déterminante dit tiens j'ai envie d'aller un peu comme lui ou comme elle?
Non.
Une artiste clé?
Non, moi j'adore les tableaux de Picasso, j'adore l'histoire de Picasso, j'adore les différentes techniques qu'il a utilisées, les différents visages et qui a inventé carrément. Mais non, j'ai pas envie d'être comme qui que ce soit, j'ai envie d'être moi.
Alors Picasso avec Braque, à un moment, oui, ils se sont un peu moqués des salons où il fallait aller parce qu'eux étaient un peu différents.
Oui.
Et donc ils ont essayé de travailler en
parce
marge.
Qu'ils, bon, ils ont, ils n'étaient pas dans la norme.
C'était pas dans la norme.
Ouais. Et là maintenant, c'est eux la norme.
Mais non, c'est eux, exactement.
C'est eux la norme
et
maintenant.
Ça t'inspire, toi, ce
bien
modèle,
sûr,
dire,
bien
moi,
sûr.
Moi, je suis pas dans la norme et je fonce.
Exactement. Je crée mon propre espace depuis quelques années. Et quand je pars dans les salons et je trouve qu'il y a une ressemblance ou il y a une technique qui ressemble un peu à la mienne, je me suis dit, si c'est la semaine passée à la Brafa, normalement, c'est mon tableau qui devrait être là. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Oui, exactement, c'est... pourquoi pas.
Mais parle-nous un peu de ta technique. Tu as dit que tu as mis 3 ans pour apprivoiser une technique. Comment tu peux la décrire ?
En fait, c'est sur le plan esthétique, on va dire que c'est des fils.
Hein,
oui, c'est des fils, c'est des fils, c'est des fils de matière. Cette matière, c'est tout un mélange de pas mal de matière aussi pour avoir cette résistance, pour avoir cette brillance, pour avoir le volume.
Est-ce que tu dessines avant de peindre?
Oui, oui, j'ai toujours mes croquets. J'ai toujours mes croquets au crayon. Et après, je commence à sculpter la peinture sur ma toile.
D'accord.
J'aime bien quand ma toile elle est vivante. J'adore la sculpture. Je ne suis pas douée pour faire des sculptures debout, mais je fais des sculptures à plat, on va dire.
Bien. Donc tu cherches un contact avec la matière. En fait.
Oui, oui, oui. Et je cherche un relief dans la matière aussi.
C'est ça. Oui.
Donc
il y a la couleur, mais il y a aussi le toucher.
Il y a le relief. Ça, c'est très important pour moi. Un tableau plat, ça ne sera pas moi. J'ai besoin de cette matière. J'ai besoin
comme tu disais, le vivant.
Exactement. Exactement. Une toile, je l'achète plate ou je la fais moi-même. Et j'ai besoin de lui donner un coup de vie. Et ce coup de vie, c'est ses reliefs, c'est ses formes. On va dire, c'est une sculpture à plat.
Mais donc, pour toi, si je comprends bien, une œuvre, alors, n'est jamais terminée.
Jamais.
C'est vivant.
Jamais. Jamais.
Comment tu gères ça avec une toile?
Mais
il faut toujours la continuer ou parfois tu dis...
Mais certaines fois, ça m'arrive. Quand ils sont chez moi...
J'arrête.
Non, jamais. J'arrête jamais. J'ai des toiles que j'ai faites en 2017 et j'ai retouché la semaine passée.
Très, très bien. Très intéressant. Et en fonction de quoi alors? Simplement l'inspiration?
Non, mais par exemple, moi j'ai une toile qui est dans ma salle de bain. Chaque fois quand je rentre, il y a un carré qui me dérange, il y a un vide. À fur et à mesure, ça fait des années qu'elle est là, ça fait 6 ans. Et la semaine passée, je l'ai retiré, j'ai ramené mon chariot dans ma salle de bain, je l'ai retouché, je l'ai remis et je dis, ah là maintenant ça ne me dérange pas.
C'est... Et tu as l'impression, c'est ta vie. Bon, nous, on dit ici à la maison commune, l'art fait partie de la vie, l'art c'est la vie.
C'est la vie, bien sûr.
Donc c'est en fonction de ce
c'est
que
un
tu
mode
vis.
De vie.
C'est un peu en fonction de ce que tu vis au quotidien que ton art évolue.
Mon art évolue par rapport à ma personnalité, à mon vécu, à mes expériences. On change avec le temps. Je suis plus la petite fille qui a 20 ans, qui est arrivée ici en Europe.
Un petit peu quand même. Mais...
Non, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai eu pas mal d'expériences, bonnes ou mauvaises, qui m'ont appris pas mal de choses.
C'est ça.
On grandit. Je suis venue autant qu'une petite fille naïve. Là, aujourd'hui, je suis mère de famille de 3 enfants. Et cette naïveté, elle est toujours là, mais...
C'est là que je voulais dire, la petite fille, de rester...
Oui, oui, on a toujours un enfant.
La naïveté fait vivre.
Oui, oui, on a toujours... Oui, oui. Mais on réfléchit 10 fois plus. Malheureusement, on n'a plus cette spontané qu'on avait avant.
Bien sûr.
Moi, je l'ai remarqué.
Donc, justement, j'arrive à cette question, piège. Est-ce qu'il y a des choses ou des personnes ou des institutions qui t'ont empêché d'aller plus loin?
Bien sûr, bien sûr.
Par exemple
Autant que femme artiste, j'ai eu pas mal de portes qui étaient grande ouverte pour me recevoir. Mais j'ai eu pas mal de personnes qui ont essayé de claquer ces portes. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les problèmes. J'aime bien me mettre à l'abri chaque fois qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, ou je sais que ça va créer des tensions, je préfère retourner en arrière parce que je fais de l'art. Je ne fais pas autre chose. J'ai eu beaucoup de chance parce que chaque fois que j'expose, je réussis toujours à faire accepter mon art. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à percer à un certain moment. Je ne sais pas, est-ce que là maintenant, est-ce que c'est de la discrimination ou la malchance ou j'étais pas à la hauteur? Je ne sais pas dans quelle catégorie je peux mettre ça.
C'est ça.
Je ne peux pas dire la discrimination parce que c'est un mot que j'ai découvert dernièrement, je ne connais pas du tout.
Et des portes se ferment, donc c'est des gens qui te promettent des choses. Et puis qui,
oui, il y a des promesses, voilà. il y a un échange.
On te demande de t'adapter.
On me demande des trucs que je ne pourrais jamais accepter. On me demande de donner des trucs qui ne sont pas dans mon éducation, qui ne sont pas dans un échange qui ne m'intéresse pas, qui n'est pas... Moi, je suis là pour faire de l'art. Je ne suis pas là pour autre chose. Je te propose une collection de tableaux, on va dire, d'œuvres. C'est à prendre ou à laisser. Mais que tu me proposes autre chose, non. Moi, je suis là pour faire de l'art. Ça prend plus de temps qu'on sait ce qu'on veut, mais ça paye toujours.
Hein. Oui. Et alors, par rapport au groupe de travail, il y a des gens qui te proposent, est-ce que tu as de l'expérience de travaux préparatoires en groupe, en vue d'une exposition ou en vue d'un travail artistique en co-création, comme on fait ici dans la maison commune?
Non, c'est la première fois. Ça me fait plaisir. D'accord. C'est la première fois que je veux vraiment travailler sur...
Et tu avais d'autres possibilités?
J'avais d'autres possibilités, mais on n'avait... Non, c'est pas on ne le sentait pas, on n'était pas dans la même technique.
D'accord.
Parce que là, on a proposé un travail, et pour moi, c'était... Je l'ai accepté parce que c'est une découverte. Je fais autre chose, je sors de ma zone de confort.
Oui.
Je travaille sur une matière que je connais parce que je suis styliste de base, je suis couturière.
Donc là, tu travailles avec Ingrid et le groupe de femmes.
Ouais.
Et tu trouves ça
Je trouve ça génial. Ouais, je trouve ça très intéressant parce que ça me ramène à mon premier travail. Comme styliste et comme designer de vêtements, ça me ramène à mon premier boulot. C'est un plaisir de toucher le tissu, de toucher les matières, de travailler avec des différentes techniques. J'ai jamais pensé que en tissu on peut faire des trucs magnifiques. C'est une très belle expérience qu'on n'a pas encore
concrétisée.
Qui est en cours. Mais c'est magnifique, c'est un des premiers travaux parce que on a donné une technique, c'est apprendre ou à laisser. C'est une découverte, c'est quelque chose de nouveau et c'est un domaine que je connais déjà, le domaine de la confection. Et pour les autres propositions que j'ai eues, c'est des différentes techniques. J'ai une proposition d'une artiste peintre française pour qu'on travaille ensemble, mais on n'a pas la même technique. Pour moi, j'imagine déjà l'œuvre. Non, ça ne passe pas.
C'est ça.
Pour moi, ça ne va pas être beau.
Tu vas perdre quelque chose.
Je veux perdre quelque chose. Mon œuvre, je veux dire, ma création, elle n'aura pas d'âme. Il n'aura pas ma signature, il y aura une autre technique qui n'est pas la mienne, que j'aime beaucoup, mais il y a des trucs qu'on ne peut pas mariner.
Et donc je comprends bien que si tu devais faire un atelier en co-création, en peinture, ce serait plus difficile.
Ce serait plus difficile parce que j'ai besoin d'avoir... Ouais. Le tissu, c'est une technique, en fait, avec un Ingrid. Avec un Ingrid, en fait, je suis en train d'apprendre à faire ce qu'elle, elle fait. Elle m'apprend quelque chose. Mais si on vient si une autre artiste me propose de travailler la même, sur le même tableau, on va dire, sur la même surface, il faut voir est-ce que les techniques, ils vont être... Ils vont se mélanger bien ensemble aussi. Oui, hein. Je peux pas travailler avec un artiste, c'est pas que je veux pas. Moi, je dois avoir un résultat satisfaisant.
Oui.
Et c'est l'artiste en général, s'il n'est pas satisfait, derrière un tableau, il y a ça de tableau.
Est-ce que tu as l'impression que dans le travail de groupe, tu as besoin d'aide ou de conseils de la part
toujours,
de l'artiste ?
Toujours.
Que toi, tu en donnes aussi, c'est ça ?
Bien sûr, c'est un échange. C'est un échange. C'est un échange. Dans tous les métiers, c'est un échange.
Oui.
On apprend toujours.
Mm-hmm.
Et on apprend, j'apprendrai jusqu'à, je ne sais pas, fin de mes jours.
Non.
L'art, c'est... On a toujours quelque chose de nouveau, on est toujours impressionné, on est toujours bouche bée devant le travail des autres, ou que ce soit professionnel, ou que ce soit un étudiant. Ou... Moi, j'ai vu à l'École des Beaux-Arts des étudiants, mais mon Dieu, c'est juste incroyable ce qu'ils font. Je me dis, avec toute l'expérience que j'ai, je serais incapable de faire ce qu'ils font.
Mais eux aussi seront incapables de faire ce que tu fais.
Chacun a son empreinte. Mais
est-ce que tu crois que c'est facile aujourd'hui d'avoir une empreinte personnelle dans le monde contemporain, dans le monde où il y a tout le caractère immédiateté avec Instagram, avec Facebook, avec tous les médias sociaux, les réseaux sociaux? Est-ce que les gens ont encore le temps, parce que tu parlais d'âme, de s'intéresser à des œuvres profondes qui font du sens, etc.? Est-ce que tu n'es pas un peu frustré dans le monde actuel ? Enfin, entre guillemets, hein, frustré, de dire, tiens,
écoute,
est-ce que les gens ont le temps de s'intéresser à ta peinture, qui a du sens ou qui a de l'âme ?
Mais ça dépend. Chaque personne donne un sens à ce qu'il voit.
Mais il faut qu'il ait le temps.
Oui. Mais on est différent. Quand on visite une galerie d'art ou une expo, on va recevoir 200 personnes, c'est 200...
Regard.
De son regard, de son définition différente, ou même de son un, parce que même la définition de l'artiste, il est différente de ce qu'il dégage. C'est impossible de se mettre d'accord sur. On peut se mettre d'accord de dire c'est beau, ou c'est moche, ou c'est pas mon style. Mais il y en a 100 qui vont dire que c'est pas mon style, il y en a 300 qui vont dire mais j'adore. C'est quoi ça? Ils vont essayer d'approfondir et de chercher vraiment ce qu'il y a derrière. Mais l'art, c'est toujours sombre.
Sombre?
Oui.
Sombre, ouais. Lumière, deux.
Non, je parle de côté de l'idée qui est derrière, invisible, exactement, oui. De côté inconnu, c'est toujours sombre. On ne sait pas ce qu'il veut dire l'artiste. Même si on a une petite pancarte en bas qui explique quoi que ce soit, la vérité, on ne dit jamais ce qu'on pense.
Non, inconscient.
Mais moi, personnellement, quand je réalise une œuvre...
C'est l'inconscient qui parle.
C'est l'inconscient qui parle. Et c'est on va dire, c'est le diable ou l'ange qui est en nous qui s'exprime. Voilà. Et quand on se réveille, c'est comme si on était dans un rêve. Et quand je me réveille, est-ce que je me rappelle encore au nom de ce que...
Pourquoi tu l'as fait, tu
sais. Exactement.
Mais pourtant, tu écris aussi, tu fais des poésies qui accompagnent parfois les tableaux.
Non, des petites citations que je... Voilà.
Tu parlais tout à l'heure de poésie.
Oui, on ne va pas dire ça. Non, je ne peux pas dire que je suis une poète. Non, des petites citations, des petits mots qui...
Mais pas qui expliquent, qui accompagnent.
Non, qui accompagnent.
Bien sûr.
Ouais. Je ne peux pas donner les explications. Certaines fois, même moi, je perds les explications. Là, maintenant, j'ai un tableau noir et blanc. Quand je l'avais dessiné, j'avais une idée claire dans ma tête. Mais aujourd'hui, on me pose la question, je suis incapable de dire...
D'accord.
De trouver les mots qui expliquent dans quel état j'ai été quand j'ai fait ce tableau.
Très bien. Ce qui prouve que la création est infinie, parce que ton inconscient, il ne va pas mourir.
Non,
il va continuer
jamais.
À t'influencer,
jamais.
Il va continuer
jamais.
À
exactement.
Évoluer au même rythme que la peinture. C'est pour ça que tu as besoin de liberté.
On a tous besoin de liberté.
Il y en a qui ont besoin vraiment d'encadrement. Il y a des artistes qui essayent de rentrer dans un cadre, comme tu disais aussi, de suivre le marché. Donc, ils sont plus stratèges, ils vont peut-être faire des œuvres qui vont plaire. Alors, l'inconscient, là, il n'est pas à sa place, peut-être.
Tu sais, ça c'est pas l'artiste qui le fait. En fait, moi j'ai une remarque le mois dernier. Il y a quelqu'un qui a montré mes œuvres, mes tableaux, et un collectionneur qui a dit, c'est commercial.
Et toi, tu as fait du commerce, donc ça ne te gêne pas ou ça
Oh, ça
te...
me gêne pas du tout.
Non?
Ça me gêne pas du tout. Hein. Non,
Donc,
non,
il
c'est
voulait dire
sûr.
c'est bankable.
Voilà.
Voilà, c'est
Mais
vendable.
c'est vendable, c'est commercial. Mais ça ne me dérange pas du tout.
Mais toi, tu vends, tu vois pas mal.
Je vends, je ne veux pas dire le contraire. Et après, quand on me dit, mon ami a été gêné de me dire qu'on a dit que ton tableau, il est commercial, j'ai dit, mais tu sais ce que ça veut dire, un artiste, de lui dire que ton tableau, il est commercial? Il est facile à vendre. Je dis, les artistes, ils sont en train de... On attend leur enterrement pour que ça soit, que leurs œuvres soient commerciales.
Souvent.
Elle me dit, mais ça ne te dérange pas? J'ai dit, mais non. Ça veut dire que je suis arrivée à réaliser quelque chose autant vivante. Je vais en profiter, j'espère que ça va décoller comme ça, que ça va être commercial.
J'espère
Et
aussi,
voilà,
mais c'est
et que je
mal.
veux vivre dans mon art à 100%.
Parce que pour le moment, tu ne travailles pas en dehors de ta pratique artistique.
Non,
Non.
non, non. Pour l'instant, j'essaie vraiment de me
De
lancer,
décoller.
de décoller autant qu'artiste.
Alors, ma question suivante, c'est la question piège. Tu connais Naïma,
Oui.
elle est là.
Oui.
Où elle veut être dans 3 ans ou dans 5 ans en tant qu'artiste? C'est quoi pour toi réussir vraiment dans
Être
3 ans en tant qu'artiste?
satisfaite de ce que je fais.
Et pas être dans un lieu, pas être au Guggenheim, pas être à la
Non.
Brava, pas être...
J'aimerais bien, c'est un
Ah,
rêve.
mais dis-moi ton
C'est
rêve.
un rêve. Mon rêve, c'est d'être une école, d'être un exemple, d'être pas un centre d'intérêt, ça m'intéresse pas. Ou d'être
Donc un exemple pour d'autres artistes.
oui.
Et pour d'autres femmes
Enfin,
artistes,
d'être femme
principalement.
artiste principalement et d'être une inspiration aux jeunes, pourquoi pas? J'aimerais bien, si mon tableau, si quelqu'un croise, les regards croisent mes œuvres, qu'ils disent, qu'ils s'arrêtent, qu'ils se posent des questions, qu'ils essayent de comprendre ce qu'il y a entre les lignes. Ça, c'est mon
Et qu'est-ce
rêve.
qui te fait le plus plaisir comme commentaire quand tu es avec des gens
Mystérieux.
mystérieux?
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, il y a un ami qui a montré mes tableaux aussi à un galeriste qui est
Bonjour.
resté
On a une interview.
pendant 5 minutes bouche bée parce que il trouvait pas elle n'arrivait pas à comprendre ma technique, comment il est.
D'accord.
Et ça m'a fait
Et alors
plaisir.
tu as expliqué ou
Non.
non? Il cherche.
Il cherche.
Et s'il te donne des réponses, là tu seras intéressé.
Bien sûr. Mais je laisse ce côté mystérieux.
D'accord.
C'est
Et
beau.
alors on disait dans 3 ans, dans 5 ans,
Dans
tu
dix
dis on
ans,
verra.
on verra.
Mais est-ce que tu crois que tu vas évoluer dans
Bien
l'aspect de la
sûr.
maîtrise esthétique? Tu vas
Bien
trouver
sûr,
un
on
autre
évolue chaque
chemin?
jour.
Tu cherches un autre chemin?
Je cherche tout le temps quelque chose de
Est-ce que tu
nouveau,
voudrais
quelque chose.
arriver à une autre technique aussi en même
Non,
temps?
j'ai envie de maîtriser, parce que je peux maîtriser autant que je veux cette technique, mais j'ai envie encore de la maîtriser plus. J'ai envie d'arriver à un point que je peux utiliser ces techniques sur des objets, sur du meuble, sur
Du bois.
des bois, ou j'essaye de la faire bouger. De pas la laisser à plat.
Des techniques vivantes, c'est aussi le lido par exemple, tu connais?
C'est
La
magnifique,
gravure.
la gravure, mais c'est pas donné à tout le monde.
Il faut du matériel.
C'est le matériel, c'est un savoir-faire aussi, hein.
Et tu n'as pas essayé ces dernières années d'autres techniques, vidéo, photo, j'ai des gravures.
J'adore la photo.
Mais
J'adore la
c'est
photo.
plat en
Ouais,
général.
j'adore la photo. Non, ça dépend, hein. Plat visuel.
Visuel.
Ouais, mais si je prends photo, je veux pas prendre des visages qui sont dans les normes ou des trucs qu'on trouvera. Je serai plus dans des photos qui choquent que qui font rêver.
Celle-là, il a noir et blanc ici en bas. Elle
J'adore parce que,
t'inspire.
bien sûr, et j'en ai vu
Pourquoi? Tu peux me la
plusieurs,
décrire?
parce qu'il y a un pont qui ramène dans qui nous fait traverser dans un on va dire un concept noir, et c'est le seul pont qui nous donne le lien entre le A et le B, mmh. avec deux lumières, même
deux points de lumière, ouais, trois,
cinq même, on va dire, le reflet. Le reflet de... En fait, les deux principes lumière qui nous donnent les trois plus, les trois reflets. Hein, pour, je trouve ça magnifique. Moi, je les ai déjà vus. C'est pas la première fois. Hein. Ouais, j'ai déjà analysé ce travail et je sais que c'est le vôtre.
Non, ça, c'est pas le mien.
Ah.
Le mien, il est en haut. Mais ça, c'est Emna Fedni, une artiste tunisienne.
OK.
Et donc, tu
mais vous êtes dans le même...
registre. Il y a un lien avec la peinture. Hein. Peinture et photo. Non.
Toujours.
Toujours.
Toujours. La peinture, elle vient d'une photo. Hein.
Ouais. Et alors, on découvre, il y a des personnages qu'on voit peindre,
oui, on les voit.
Qui descendent une sorte d'escalier, qui sont très, très mystérieux. C'est ça qui t'intéresse dans la peinture, ouais. Et dans la photo, finalement, c'est le mystère.
Peut-être. C'est le mystère, c'est le lien, c'est le rêve, c'est la solution. Mm-hmm. Moi, je trouve ce tableau, la lumière, c'est l'éclairage de trajet de ces gens-là.
Tout à fait. Une belle analyse. Et à part ça, est-ce que tu as des coups de cœur, de visites d'expo récentes ou de découvertes de...
Moi, je fais le tour des galeries chaque semaine.
À Bruxelles.
À Bruxelles.
Et plutôt des,
et chaque fois que
les
je
petites galeries ou les grandes expos, j'imagine.
Moi, je fais le tour.
Tu fais le tour.
Je dois avoir un coup de cœur.
Et tu en as beaucoup pour le moment ou pas beaucoup ?
Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai vu des très belles à la Brafa. Ouais. J'ai adoré. Il y a un artiste chinois qui m'a... Oh, il est fou, mais incroyable, la technique.
Tu as retenu son nom ?
Je l'ai, parce que c'est un nom chinois.
Hein. Ah,
c'est
ouais.
pas, c'est pas... Je l'ai, c'est incroyable comment cet artiste travaille, mais...
En wow. peinture, hein?
Non.
Ah?
Non.
C'est quoi?
Dites-le, c'est une technique tellement différente, j'ai jamais vu. C'est la première fois,
donc
je vous montre.
C'est de la sculpture?
Non, c'est même pas de la sculpture. Je vous montre et après vous allez. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est incroyable, qu'on n'arrive pas à trouver un nom.
Pour la technique, pour la pratique, pour
non,
le matériel.
Pour le matériel. Regardez.
Ah oui, d'accord.
En fait.
Oui, c'est une sculpture.
C'est des
comme
petits morceaux.
Tu aimes la matière et le relief.
Ouais, j'adore. C'est des petits cubes de papier pliés avec une ficelle. Et l'artiste a déjà écrit sur le papier, emballé et collé par rapport aux couleurs. Mais même pas les couleurs, c'est en fait l'écriture.
Ça fait un peu
c'est
le paysage lunaire.
C'est incroyable.
Et son regardez. Nom alors
on va le chercher là.
C'est bon.
Déjà, j'avais mis.
Sinon, c'est pas grave.
J'avais mis.
Chun Kwang Yong.
Voilà, c'est difficile à retenir.
84. Voilà.
C'est incroyable. J'adore son travail. Et,
donc, ton travail pour le moment, si je peux dire, c'est de t'inspirer de beaucoup de galeries que tu visites.
Bien sûr, de la vie.
Permanent.
Et de la vie de chaque jour, hein. Si je peux être inspirée par une personne que je rencontre dans la rue, habillée avec des couleurs qui vont m'attirer, ou voilà.
Ouais.
Et c'est l'art, c'est la réalité. On est reparti.
Donc tu me disais que ce qui compte pour toi, c'est que quelqu'un qui achète des œuvres ait un coup de cœur.
Exact.
C'est ça qui compte le plus.
Voilà. Moi, je préfère un amateur qui a un coup de cœur, qui va prendre, qui va considérer ce tableau comme son propre œuvre, qui va prendre soin, qui ne va pas le mettre dans sa cave dans 2-3 ans parce qu'il est prêt à sortir avec son canapé.
C'est pas de la déco, quoi.
Non, c'est pas de la déco. J'ai pas envie de malheureusement, on ne peut pas toujours savoir qui a acheté nos œuvres, surtout quand ils sont vendus par des autres personnes. Mais quand c'est vendu par moi-même, je préfère vendre. Je ne veux pas dire vendre, laisser partir. Laisser partir cette œuvre à des gens qui vont qui vont avoir un lien avec cette œuvre, on va dire.
Alors, tu disais tout à l'heure, en dehors de l'interview, que tu étais intéressé par la photographie. Qu'est-ce que ça peut t'apporter en plus ou en complément de la peinture, en fait ? C'est comment tu vois la photographie ?
La photographie, en fait, c'est des flashs. C'est mémoriser, c'est de mettre
en mémoire
des flashs, des trucs que je vois et je suis impressionnée. Et sur le moment même, je me dis, dommage que je n'ai pas un appareil photo. Dommage, ça c'est beau. C'est pour me faire un répertoire, en fait.
D'accord. Et pour aider pour la peinture ou
Non, rien à voir. La peinture, c'est le diable qui est en moi. C'est c'est l'esprit.
Alors la photo serait l'ange, alors, peut-être.
C'est le regard.
C'est le regard.
C'est le regard. On ne voit pas toujours des anges.
Alors, tu disais, tu as un projet de photo dans ton village.
Ah, j'adorerais faire ça.
Dis-moi un peu
Parce que dans mon village, il y a encore les vieilles maisons qui ont une histoire, où il y a les arrière-arrière-grands-parents qui habitaient là. Mais les enfants, ils sont venus construire des maisons modernes, mais ils ont toujours laissé ces petites chambres pour souvenir. Et j'aimerais bien faire un tour dans mon village, qui est dans le sud du Maroc, et prendre en photo. Il y a encore les tapis qui datent de 100 ans, qui sont encore là, intacts.
Donc, tout est préservé de génération en génération,
et c'est interdit de toucher ces pièces-là, parce que c'est des souvenirs.
Et donc les tapis en eux-mêmes, est-ce qu'ils racontent des histoires ?
Bien sûr, il y a toujours une histoire, c'est des histoires des femmes qui passaient leur temps à tisser, et à chanter, à crier, et une vie sociale dehors de vie de famille. Et il y avait l'art spontané. Il y avait des dessins sur un tableau, on peut trouver des Picasso, on peut trouver des Van Gogh, on peut trouver de Miron, on peut trouver plein de dessins, on peut trouver toute une culture berbère qui est là, on peut trouver l'image de la vie normale, ou la souffrance de ces femmes-là, ou leur joie de vivre. C'est toute une histoire des générations qui est là.
Et donc ça, c'est très intéressant, tu es très passionné par la culture berbère.
Mais bien sûr.
Est-ce qu'on le retrouve, cet élément de culture, dans ta production artistique ?
Avant, plus maintenant.
Plus maintenant.
Non, plus maintenant, malheureusement.
C'est peut-être un peu pour ça que tu veux aller faire des photos.
Voilà, je serais plus à l'aise de prendre ça en photo, parce que je donnerais la vraie image, que de les dessiner.
D'accord. Est-ce qu'on peut te proposer à la Maison Commune peut-être de faire une exposition photo de cette histoire?
Mais j'adorerais.
À côté de tes peintures.
Mais j'adorerais faire ça. J'adorerais. C'est un projet que j'aimerais bien réaliser pour l'année prochaine.
Peut-être pour le mois d'octobre.
La photo déjà pour le mois d'octobre.
Pourquoi pas?
J'essaierai. Je promets rien, mais je vais faire aller. On en parlera.
On en parlera. Alors si tu veux, on va revenir un tout petit peu sur l'aspect discrimination. Tu disais tout à l'heure que tu as pas subi beaucoup de discrimination dans ta vie, sauf parfois certaines difficultés, et puis le mannequinat qui n'était pas évident à un moment, tu as changé. Mais tu disais que par contre, tes enfants avaient subi des discriminations. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ?
En fait, mes enfants, depuis que mes deux petites, ils sont au collège, et chaque jour, ils viennent avec des histoires, mais je suis choquée, parce que je leur ai dit, comme j'ai dit au directeur, on dirait qu'on est aux années 80, aux années 70. Moi, autant que femme d'un certain âge, quand je suis arrivée en Belgique, je ne parlais pas la langue, je ne rentrais pas dans les normes physiques de la société européenne, je n'avais pas les yeux bleus, je n'étais pas blonde, je n'étais pas discriminée. Et là, nos enfants qui sont nés ici en Belgique, qui parlent le français et le néerlandais, et qu'ils ont fait leurs études ici, et qu'ils n'ont pas une double nationalité, et subissent la discrimination, mais je suis dépassée.
Vraiment ?
Oui, je suis dépassée.
C'est discrimination en tant que femme,
Non, autant que jeune fille, autant qu'une étrangère, que le prof...
On la considère comme étrangère.
Oui, comme étrangère.
Parce qu'elle ressemble, comme tu disais, un peu à une Espagnole.
Oui,
toi,
voilà. Elle a pas la tête d'une blonde aux yeux bleus. Et on lui dit, eh ben, Caroline a le droit de faire ce qu'elle veut en classe, mais toi, non. Et ma fille, elle est choquée. Elle me dit, mais maman, j'étudie comme tous les autres. J'ai des bonnes notes. Pourquoi on va laisser, par exemple, c'est un bête exemple, la blonde aux yeux bleus ou le blond aux yeux bleus partir aux toilettes et moi, on me le refuse.
Et que dit le directeur ?
Non, mais c'est des jeunes, ils s'imaginent du truc, mais ils ont difficile à accepter le fait que, entre parenthèses, c'est du racisme ou c'est de la discrimination. Mais la seule solution qu'on a, moi, ce que je dis à mes enfants, c'est d'avoir une forte personnalité et de...
Ouais. Et tu ressens ça plus...
Avec mes enfants.
De plus en plus, en fait.
Avec mes enfants, oui. Ouais. Pas avec... Moi, personnellement, j'ai jamais été discriminée, on va dire.
C'est ça. Et qu'est-ce que tu penses?
C'est incroyable. Les mentalités, comment ils ont changé?
Les femmes sont discriminées parce qu'elles portent le voile, etc. Qu'est-ce que tu en penses? De manière générale.
De manière générale, c'est malheureux que... tu vois, la beauté de cette vie, c'est qu'on est différents l'un de l'autre. On s'imagine qu'on se ressemble tous. On a tous la même tête, on a tous la même religion, on a tous la même façon de vivre. C'est quoi le charme? Il n'y aura pas
donc
de charme.
Donc la diversité,
c'est le charme.
C'est un slogan, c'est pas réel. On ne cherche pas la diversité. Non. Ici, dans la maison commune, on essaie de faire travailler des femmes différentes ensemble, etc. Mais quand on dit ça dans la société, globalement, ça ne marche pas, en fait.
Ça ne marche pas parce que chacun... On ne veut pas. Et par exemple, j'entends beaucoup sur la discrimination dans le milieu de travail. Ils ont besoin d'un visage traditionnel qu'ils ont l'habitude de voir depuis des années. On ne va pas engager une folardée parce que, écoute, on est en Belgique, on est dans un pays laïque, on est dans un pays catholique. Et...
Pourtant, en Angleterre, aux États-Unis, voilà. Au Canada, il n'y a pas de problème. Les femmes qui ont un foulard...
C'est malheureux, parce qu'on ne doit pas juger les gens par rapport à leur religion, ou à leur culture, ou à leur façon de physique, ou le lieu d'origine. Ça aussi. Moi, j'ai toujours dit, là, on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'orientation sexuelle. C'est du truc intime. On les garde chez soi. Mais si une personne a fait le choix de s'habiller différemment des autres, ça reste un choix personnel qu'on doit respecter. On doit juger les gens par rapport à ce qu'ils ont dans leur cœur et dans leur tête, dans leur bagage. Il y a aussi de la discrimination, ce que j'ai entendu dernièrement, parce que j'ai commencé à lire sur les questions d'études, ou questions de niveau intellectuel, mais qu'est-ce que ça a à voir?
De classe sociale.
Mais je suis dépassée parce qu'on est en 2023.
Et comment tu expliques alors que les enfants, c'est triste et on connaît cette situation.
C'est triste.
Que toi, en tant qu'artiste, tu exposes, tu vends, etc., tu ne connais absolument pas de discrimination contre toi.
Parce que je suis en contact avec ma génération. Et notre génération.
Qui est plus ouverte.
Qui est plus ouverte d'esprit. On est arrivé, on a créé ce changement. Mais malheureusement, les profs de mes enfants, ils ont l'âge de mon grand-fils. Entre la 25 et 30 ans, c'est des jeunes qui viennent de commencer. Ou malheureusement, c'est des presque retraités. Moi, ma fille, l'année dernière, il a eu une histoire avec sa prof de sport qui leur a dit, prof de sport, c'est même pas une prof de maths ou néerlandais ou quoi que ce soit. Sont dans une école néerlandophone, qui a dit à ma fille, toi et toi et toi, trois étrangères, vous n'avez pas d'avenir.
Comme ça.
Comme ça. Ça m'a choquée.
C'est du harcèlement moral, ça.
Ouais, mais c'est du racisme. C'est du racisme, c'est de la discrimination. Parce
que j'ai l'impression que les autorités belges ne font pas assez, ne sont pas assez prudentes.
Non. On ne peut pas déposer plainte pour discrimination.
Pour harcèlement moral, oui.
Ouais, pour harcèlement moral, mais ça part à la poubelle. Moi, j'en ai pas mal de plaintes.
D'accord.
Moi, j'ai fait ça avec mes enfants pour les protéger, pour les défendre.
Tu as fait des plaintes?
Bien sûr, qu'ils ont abouti à rien. Mais c'est juste pour montrer à l'école que je suis là, je protège mes enfants. Et malheureusement, c'est une des raisons qui va me laisser leur changer d'école. C'est une des raisons qui je me dis, est-ce que j'aurais bien aimé qu'ils restent parce que l'école, elle n'est pas loin de la maison et mes enfants, ils ont une certaine indépendance. Ils ont une certaine indépendance qui me soulage parce qu'ils rentrent, ils sortent, ils partent à l'école et ils rentrent toutes seules. Mais c'est juste impossible d'accepter le fait qu'ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas être dans la même ligne que les autres.
D'accord. Et pour rester sur les autorités belges, toi, en tant qu'artiste, tu as des reconnaissances des autorités belges au
Mais j'attends
niveau
pas.
communal ou
Non,
pas du tout?
non, je les cherche pas.
Tu n'as,
J'ai pas
est-ce que
besoin.
tu as déjà rentré des appels d'offres ou des demandes de subsides
Non,
toi-même?
non,
Pas,
non,
tu
non,
cherches pas ce
non.
genre de
Je
choses?
cherche pas ce genre de choses.
Non.
Moi, je fais de l'art.
Oui.
Ça, il y a
Et est-ce qu'il te
des.
manque quelque chose en termes de reconnaissance?
J'ai pas besoin.
Pas bon.
Non. Un artiste, moi, pour moi, autant qu'artiste, j'ai besoin de la reconnaissance de personne. Qu'on a cette satisfaction
Personnel.
personnelle, on existe. Soit tu veux pas, j'existe, je suis là. J'ai une signature que je produis, je présente, je défends, j'existe.
Mais tu comprends en même temps que beaucoup d'artistes et dans Soro City, les femmes artistes, elles ont besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'un peu, on leur permet ici d'exposer, de travailler ensemble, elles ont besoin d'être montrées, puisqu'il y a un peu, elles sont souvent
Avec les
invisibles.
réseaux, non, avec les réseaux sociaux maintenant, on peut, on n'a plus besoin d'un local, on n'a plus besoin. C'est vrai, c'est un
C'est pas la
plus.
même
Hein.
démarche.
Non, c'est pas la même démarche, mais c'est un plus. Hein, c'est un plus. Hein. Avoir un local, une galerie qui t'expose, mais c'est une reconnaissance. On te donne le statut d'artiste. Quand une galerie t'expose, tu es un artiste peintre reconnu par telle galerie ou telle galerie, mais tu as un public qui vient voir tes œuvres. C'est une signature,
Bien
on va
sûr.
dire, c'est une carte d'identité pour ton travail. Mais moi, je ne sens pas ce besoin.
Alors, je
Ça me
pense que...
fait plaisir d'exposer quand il y a une porte ouverte. Je ne veux pas refuser. Je suis une artiste peintre et j'ai besoin aussi. Je n'ai pas besoin de cette reconnaissance un état ou
Institution.
un... Non, 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 non. Quand je
Alors,
rencontre des personnes qui sont là pour l'art, je suis dans le partage de ce que je fais. Mais ces gens-là, ils doivent être vraiment ce que j'ai trouvé dans la maison commune, et je vous remercie, que vous êtes des gens qui... Vous êtes déjà artistes. Et quand un artiste est repris par un artiste, c'est différent.
Bien sûr.
La communication, il passe plus facilement.
Et comme tu es très libre comme femme et comme artiste, quel conseil fondamental tu pourrais donner à d'autres artistes qui débutent ou qui ont envie de débuter? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui?
Aujourd'hui, il faut faire un travail sur soi-même. Il faut se reconnaître dans ses œuvres. Parce que si je fais un travail où je ne me reconnais pas, je pourrais pas mettre mon empreinte, je pourrais pas exister.
Donc on pourrait dire que tu ne conseillerais pas de suivre
Non,
ce que
qui que ce
demande le
soit.
marché, ce que
Non,
demande l'homme,
non, moi je suis
surtout, c'est ça le
contre.
problème.
Non, non. Moi j'ai besoin, moi le conseil que je donne, même à ma fille qui est sur les traces, elle dessine, elle fait pas mal de tableaux, des objets, et elle est en train de chercher. Je lui dis, mais trouve ton empreinte. Et ça, c'est très important, parce que dès que tu as ton empreinte, où tu pars, tu es distingué.
Oui, bien sûr.
Et un artiste, il a besoin d'être distingué. Si tu copies, tu fais ce qu'on fait, ce qu'il y a sur le marché pour vendre, là, tu imprimes et tu mets un coup de peinture. Il y a pas mal d'artistes qui font ça. Hein.
Copy and paste.
Ouais, voilà. Moi, je connais des artistes. Entre parenthèses, si on peut les appeler artistes, moi je les appelle plus commerciales. Et il imprime sur une toile une œuvre de tel artiste où il rajoute deux, trois trucs de
Ça,
peinture.
c'est un peu imposteur, imposture.
Non, c'est quand même un travail. C'est quand même... Oui, c'est un petit travail, mais voilà. Mais pour lui, il ne demande pas non plus des prix...
C'est ça, ouais.
Il demande un prix pour vivre. Mm-hmm. C'est comme... C'est un boulot pour lui. Moi, je dis, c'est un travail d'imprimante. Mm-hmm. Au lieu de le faire par des machines, c'est fait par, une personne qui maîtrise super bien son pinceau. Hein. Et le signe, ça marche pour eux. Chacun trouve son chemin dans le milieu artistique.
Alors, tu demanderais, si tu demandes, si tu es intéressé par rencontrer d'autres artistes.
Bien sûr, toujours.
Commune, est-ce que tu serais d'accord de participer à une plateforme numérique ou qu'on essaie de mettre en place ici sur le plan technique, avec des technologies de pointe, mm-hmm. pour que les artistes se rencontrent et se présentent et puissent échanger entre eux.
C'est très intéressant.
Là, tu serais d'accord de participer.
Ah, bien sûr, bien sûr, c'est très très intéressant. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut, on peut avoir les galeries qu'on veut. Le numérique, ça reste la vague du moment. Mmh. On ne peut pas s'en passer.
Mais nous, on veut faire le numérique, pas que pour le numérique, mais pour que les gens se rencontrent vraiment. Pour faciliter
une plateforme artistique.
Pour faciliter la rencontre.
Et une galerie visuelle.
Aussi.
C'est magnifique.
Ouais. On l'a préparé, il y en a deux qui se travaillent dessus aujourd'hui.
Ça, je serai la première.
Ben voilà. Et une autre question par rapport au futur et par rapport à de l'aide qu'on pourrait apporter aux artistes ici, pour avoir ton avis d'artiste. Mm-hmm. On veut mettre au point, on travaille sur une formation pour artistes, pour artisans et pour amateurs d'art qui va débuter
Magnifique.
Au mois de novembre. Qu'est-ce que toi, comme artiste, tu aurais besoin comme type d'enseignement pour te permettre d'aller plus loin? Est-ce que c'est quelque chose dans l'esthétique, dans la technique? C'est quoi que tu aurais besoin?
Plutôt dans la technique.
La technique?
Et je suis en train de faire des formations en tant que...
Oui.
C'est deux mercredis par mois, deux matinées, où j'apprends les techniques du lumière, les techniques pour peindre un visage. C'est des trucs qu'on perd avec le temps.
Mm-hmm.
Moi, il y a quelques années, je sais faire un portrait sans problème. Hein. Mais aujourd'hui, je n'ai plus les techniques pour un portrait.
C'est ça.
Et ça, les techniques, c'est très, très important.
Et en plus que la technique, par exemple, tu aurais besoin de quoi? Si tu peux...
Moi, c'est juste les techniques, sincèrement. Les techniques, ça, c'est très important pour moi.
Alors justement,
pour un artiste.
Puisque nous, ce qu'on veut, c'est travailler dans des groupes de 10 à 12 personnes qui ont la maîtrise de techniques différentes et qui ont pour rôle d'apprendre aux autres artistes leur technique.
Leur technique.
Donc, il n'y a pas...
Il faut trouver les artistes qui veulent partager leur technique aussi. Hein.
C'est notre travail.
Ouais.
Donc, on est en train de voir, qu'ils doivent révéler tous leurs secrets, mais quand même,
Exactement.
Pour aider un petit peu, de dire qu'on a des animateurs qui ne seront pas vraiment des professeurs, mais qui mettront en contact de manière physique les artistes entre eux ou entre elles pour permettre d'échanger des techniques, de faire un autre travail. Donc, on va commencer par faire un autoportrait au départ, avant la formation. Et à la fin de la formation, ils devront avoir fait un autre autoportrait grâce aux techniques qu'ils ont apprises des autres. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est intéressant, c'est intéressant. En fait,
Et ce sera une formation gratuite.
C'est magnifique. Mais vous êtes en train de faire sortir l'artiste de son zone de confort.
C'est ça.
C'est très important.
Oui.
Parce que nous, on est habitués... Par exemple, moi, je suis habituée à ma technique... Je la maîtrise.
Mmh.
Mais quand vous allez me proposer, et j'ai déjà essayé chez moi, par exemple, de travailler sur les techniques d'un autre artiste connu, mais je ne me retrouve pas dedans.
Oui, je comprends.
Je ne me retrouve pas dedans.
Je
peux la maîtriser.
Il faut être en présence.
Mais je peux la maîtriser.
C'est
parce qu'il y a des gens qui font des études à l'école d'art, vraiment pour copier.
Pour imiter.
Pour imiter. Et ces gens-là, ils sont forts dans l'imitation de... Moi, j'ai entendu dernièrement qu'il y a eu un tableau très, très connu qui a été imité.
Et vendu quand même très cher.
Il vendait très, très cher parce que c'est la personne qui l'a acheté, elle ne s'est même pas rendu compte que c'est le fou.
Oui.
Mais ces gens-là, c'est des techniciens.
Mm-hmm.
Et c'est magnifique d'avoir des techniciens qui peuvent nous apprendre. Parce que moi,
alors,
autant qu'artiste peintre, ça m'intéresse d'apprendre.
Alors justement, tu parlais de suivre des cours de photo pour toi.
5 mois.
Ben, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est que des photographes vont rencontrer des peintres, vont rencontrer des graveurs, vont rencontrer des vidéastes.
Magnifique.
Dans le cadre de cette formation, sculpture peut-être, ça dépend du profil. Donc, pour pouvoir travailler ensemble à la base de ta technique, quoi, qui est la peinture, en disant que la photo peut être enseignée par un photographe qui sera là et qui aura besoin, lui, d'être initié à des techniques de maîtrise de la couleur, de peinture, par exemple.
Ouais.
Tu vois, pour changer, c'est plus que sortir de la zone de confort. C'est partir d'une maîtrise à la base qui est la tienne, qui est la sienne, pour arriver au bout du compte de faire un autre autoportrait. Par exemple, toi, tu ferais un autoportrait en photo en bout de formation.
C'est très intéressant, mais voilà, on revient encore, il faut avoir des personnes qui maîtrisent la technique de base pour t'orienter vers la méthode. Et là, moi je me dis, il faut un statut académique pour pouvoir enseigner, parce que là on est dans l'enseignement. Moi j'arrive avec ma technique qui est là, je travaille avec des fils de peinture, d'une pâte que je prépare moi-même. Ils vont me demander de faire un portrait avec ces techniques. J'ai besoin d'un technicien qui va me donner la méthode.
Bien entendu.
Voilà. C'est ça qui est très intéressant.
Donc, tu as besoin, c'est ça qui est intéressant, de formation.
Bien sûr, on a toujours besoin de formation. Toujours.
Oui.
Moi, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai toujours fait des formations.
Et besoin de transmettre aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ça t'intéresserait de transmettre.
Bien sûr, de mon savoir, de le donner à quelqu'un d'autre.
Encore deux petites questions.
Avec plaisir.
Une importante par rapport à l'interview et par rapport à ce qu'on fait dans le cadre de ce recyclé. Est-ce que tu es d'accord qu'on vienne te photographier dans ton atelier pendant que tu travailles?
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Sur un nouveau travail, où je vais présenter tes œuvres, etc.
D'ici le mois d'octobre, on fera un petit reportage.
Super.
J'aurai tout mis en...
Non, il ne faut pas d'ordre.
Non, il faut quand même mettre un peu d'ordre. Je suis en plein de travaux chez moi. D'ici le mois d'octobre, vous êtes les bienvenus chez moi à la maison, dans mon atelier, pour vraiment partager mon univers.
Avec Orocity. Il y en a d'autres, tu peux t'en poser une à toi après. Quelle est la période dans ta carrière d'artiste que tu as préférée, où tu as senti que tu étais toi-même? C'est quand qu'il y a eu le déclic? Tu dis là, je suis moi-même.
La période de Covid.
Ah bon?
Ah oui.
Parce qu'il y avait le calme.
Il y avait le calme, il y avait on va dire l'isolation. On a été isolés du monde entier. On s'est retrouvés chez soi, enfermés. J'avais deux choix. Ou je reste dans le vide, ou je cherche à faire quelque chose pour combler le vide.
Exactement. Et tu as comblé le vide.
Et j'ai comblé. Et c'est là où j'ai créé mon atelier.
Il y a beaucoup de belles histoires du Covid. Où on
exactement.
A nous, la maison commune aussi, c'est grâce à peu.
Et c'est là où j'ai installé mon atelier, j'ai sorti mes cartons de peinture et j'ai commencé vraiment à être créatif. Et j'ai eu, pendant 2 semaines, j'avais le Covid. Je ne pourrais pas être en contact avec mes enfants. Ça veut dire que le Covid m'a donné mon espace.
Oui.
Elle a un peu éloigné tout le monde. Ça faisait mal au cœur, mais ça faisait du bien à l'esprit.
Donc on pourrait dire, et on serait d'accord tous les deux là-dessus, que notre société, où on est obligé d'être pressé comme des citrons...
Le Covid, ça nous a...
C'est la pire des choses par rapport à la créativité, parce qu'on a besoin de temps, on a besoin de silence, on a besoin d'espace, et on a besoin un peu de solitude.
Un artiste a toujours besoin de solitude. Toujours, toujours. Je ne connais pas des artistes qui peuvent travailler dans le bruit.
J'en connais.
Ah, moi non.
Les artistes travaillent de la musique fort.
Ah oui, non, je parle des artistes peintres.
Oui.
Moi, je ne peux pas me concentrer. 2 minutes, c'est par exemple, il y a juste quelqu'un qui passe dans ma rue, j'entends quelqu'un qui parle ou quelqu'un ou une voiture qui s'arrête, ça me déconcentre.
D'accord.
Je suis partie, j'ai besoin d'une demi-heure pour que je revienne en arrière.
Oui.
C'est pour cela que j'aimerais bien y aller habiter dans un endroit où on n'entend rien.
Ici.
Mais Je vous ai proposé de venir m'installer pendant une semaine ou deux ici chez vous.
C'est enregistré, on n'oublie pas.